Ma cinquième position, je vois l'équipe qui évolue au centre, RK Rebec à Val d'Or. Les Foreurs de Val d'Or, une équipe jeune, une équipe talentueuse. Et je crois qu'ils vont être premiers dans la division. Et ça va être les Foreurs de Val d'Or qui vont tourner cinquième dans le classement général. Quatrième position, Étienne.
En quatrième position, j'ai mis les Cataractes de Shawinigan, la meilleure équipe dans
Oh,
l'Est, selon moi. Ouais, parce que vous les avez mis même pas dans le top 10, si je me souviens bien. Mais offensivement, il y a beaucoup de talent avec les Maverick Bourque qui risquent de sortir dans une première ou deuxième ronde cette année au repêchage. Xavier Bourgault qui est très très bon aussi. Et puis leur nouvel Européen, là, Canonica, que statistiquement, il semble très intéressant. Là. On l'a pas vu jouer là, parce qu'il joue en Europe l'an passé. Là. Donc ça va être à surveiller. Ponomarev aussi, qui a connu une très bonne saison, puis qui devrait sortir quand même tôt au repêchage cette année. Par contre, le point d'interrogation, c'est à la défensive. Il manque le gros défenseur, le corps arrière. On a tenté d'aller chercher avec possiblement Mastro Dominico cette année, mais finalement, il a décidé d'aller se tourner vers la NCAA, ce qui m'a quand même surpris. Je savais qu'il y avait un risque, mais Shawinigan, qui est quand même reconnu pour en attirer une coupe dans les dernières années. Je pensais qu'elle allait venir. Je sais pas si vous pensez comme ça.
Ben, ils ont tout fait pour l'amener. Ils ont même été chercher Angus Booth, qui a joué avec
Ouais.
lui, là, à Montréal, il y a tout récemment. Mais, oui, comme je vous l'ai dit, c'est un choix entre Shawinigan et l'Université de Notre Dame, là, dans la
Un choix
NCAA.
difficile.
Puis, c'est ce genre de choix-là qui devient plus dur pour lui.
Pour
Dans les
toi,
buts, c'est. Oui.
vas-y, Étienne.
Dans les buts, ils ont un bon gardien, donc est-ce que ça va combler cette brèche en Coulombe, un gardien de 18 ans là? Je pense qu'il va être très solide.
Ouais, pour toi, les Phillips en quatrième position?
J'ai été obligé de me chicaner entre Victo puis Chicoutimi. Puis finalement, j'ai décidé que j'allais mettre Victoriaville à cause de leur grosse offensive en quatrième position. Mais défensivement, nous verrons. Je pense qu'ils ont quand même une belle profondeur, un excellent premier trio.
Oui.
Pas grand-chose à dire finalement contre les types de Victoriaville, si ce n'est que les Saguenay Chicoutimi vont avoir le couteau sur la gorge. Ils n'auront pas le choix de connaître une grosse saison. Puis c'est ce qui m'a fait choisir les Saguenayens devant les Tigres, mais je pense que ça va être une lutte à finir entre ces deux équipes-là dans la division S.
Pour moi, en quatrième position, j'ai mis les Saguenayens de Chicoutimi, une équipe impressionnante l'année passée, une équipe jeune, une équipe puissante, et que je crois que ben, j'ai pas beaucoup suivi Chicoutimi cette année, je vais l'avouer, mais je crois que Chicoutimi,
Contrairement à moi.
oh ouais, contrairement à toi, mais cette année, je vais essayer de plus les suivre, et qu'en quatrième position, j'ai mis les Saguenayens de Chicoutimi. Alors, madame Mejo, on est rendu dans le top 3.
Oh.
Les trois positions les plus importantes du top général. Et c'est parti. Étienne, ta troisième position.
Ah, ben là, le top 5, le top 3 aussi, j'ai énormément hésité, là, donc ça se peut que ça bouge. Ben, en fait, ça risque de bouger, là.
Oui.
Je pense pas que, évidemment, on ait des recrues. Donc, en troisième position, je suis allé avec les Foreurs de Val-d'Or après une saison, je trouve, un peu décevante l'an passé. Ils ont montré au repêchage, là, qu'ils allaient pour le tout cette année en allant chercher l'excellent Jacob Petit. D'après moi, il va se batailler, là, pour. S'il reste, évidemment, pour le meilleur pointeur de la ligue. Parce que, ouais, parlant de ça, il a failli faire l'équipe l'an passé. À Calgary, donc cette année là, pas contre lui là, mais pour les fans de Val d'Or, j'espère qu'il va jouer à Val d'Or parce que sinon ça serait désastreux là. Il est vraiment vraiment très bon
Ouais.
là. Pendant que je cherche quelque chose, un instant, oui voilà. À Val d'Or, il y a aussi Justin Robida cette année qui a connu il avait été le deuxième choix au repêchage de la LHMQ, je crois, en 2019. Il est très très bon là, puis ça me surprendrait pas qu'il explose complètement l'an prochain là. S'il joue avec Pelletier, là, il va être très très bon. Il a connu une super bonne saison recrue. Dans les buts là, on a le mieux là, qui est un bon gardien. Puis au poste de deuxième là, il y a le nouveau repêché Filion, gardien de 16 ans qui a joué pour l'équipe Canada. des Olympiques juniors l'an passé. Il est vraiment très bon, il a beaucoup de potentiel. Sinon, on a aussi William Blackburn, mais là, je pense que de ce côté-là, là, ils vont devoir faire une transaction parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent du côté des gardiens de but, mais il y en a trop, justement.
Louis-Philippe?
Oui, bien sûr, à suivre du côté de Val-d'Or. Je vais y revenir bientôt, moi aussi. En troisième position, ben, juste devant Victoriaville, ce qui était prévisible un peu, j'ai mis les Saguenay et Chicoutimi, pour la même raison que j'ai évoquée antérieurement. Ils ont le couteau sous la gorge, c'était une grosse année pour eux l'année passée. Ils ont quand même perdu là, des gros morceaux, on va se le dire, en Bibeau, Harvey Pinard. Tout le monde est au courant de ça, mais Hendrix Lapierre demeure le fer de lance de cette équipe. Il est supposé de mettre un peu l'équipe sur ses épaules. Est-ce qu'il y a l'étoffe pour faire ça? Ça, c'est cette saison qui va nous le dire. Mais si Hendrix Lapierre reflète ce que tous les gens ont parlé de lui cette année, ben, les Saguenayens de Chicoutimi devraient se sauver avec la pole position de la division Ouest. Faut pas oublier non plus là, que les Européens ils sont pas mauvais. Par contre, on vient de perdre Vladislav Kotkov. C'est peut-être aussi un indice du manque de confiance qu'on a envers le leader Lapierre à suivre. On verra, ça va être sur la glace que ça va jouer. Je trouve quand même que la division Est n'est pas la division la plus forte cette année. Ça pourrait aider les Saguenayens, mais c'est ambigu. Déjà dans un mois, ça se peut que j'ai changé d'idée.
Du côté de Kotkov, là, je pense que du côté des Saguenayens, peut-être qu'on pensait vraiment qu'il allait pas revenir cette année. Là.
OK,
Puis comme les
c'est
Sea Dogs
possible.
sont meilleurs pour convaincre des joueurs, peut-être que c'est pour ça qu'on l'a envoyé là, je sais pas, mais il y a 20 ans, il est bon puis il est prêt pour le pro. Donc ça va être à suivre.
Pour moi, mon top 3, ma troisième position, attendez une seconde, j'ai mis les Islanders de Charlottetown. Une équipe qui va surprendre cette année. Attachez vos tucs. Je n'ai pas beaucoup suivi l'année passée, mais j'ai vu quelques matchs et préparez-vous parce que cette année, ça va être une équipe assez impressionnante.
Plate, mais efficace.
Plate, mais très, très efficace.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
En deuxième position, Étienne.
J'ai ouais. Oui, j'ai les Sea Dogs de Saint-Jean. Il y a une couple de semaines, je les aurais pas mis là, quoi qu'ils ont une très belle line-up, là, mais c'est difficile, tu sais, de passer de 15e à 2e à 1er. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité, mais je les ai mis, ils ont tellement sur papier, là. C'est tellement une équipe impressionnante, là. Ils ont une défensive avec une profondeur absolument incroyable, là, avec Poirier, Villeneuve, Ennis en plus, ouais, si j'en oublie. À l'attaque, en plus, c'est excellent, là. Ils ont Joshua Roy, qui a connu peut-être une saison un peu plus, un début de saison l'an passé un peu plus lent, mais il s'est très bien repris en deuxième moitié de saison. Puis cette année, là, il pourrait être complètement exploser, être excellent. Mais je pense qu'on va y aller pour une bonne run dans les séries là, du côté de Saint-Jean.
Hello, Philippe?
Ben, évidemment, je dirais que j'ai mis les Foreurs de Val d'Or, mais c'est sûr que ça ira si Jacob Pelletier passe la saison-là, là,
Ouais.
naturellement. L'équipe, à ce moment-là, va probablement avoir un boost, hein. Je veux dire, quand tu as un joueur comme Jacob Pelletier qui va leader le club, c'est sûr que les autres, il y a quand même beaucoup de vétérans qui reviennent dans cette équipe-là. Le directeur général Pascal Daou, là, il nie catégoriquement qu'il veut ramener l'intérêt là en Abitibi là, pour les Foreurs, mais parions que quand même que l'arrivée de Jacob Pelletier va quand même avoir ça comme dommage collatéral à tout le moins. Puis ben ça va être entre les mains de l'entraîneur Daniel Renault, ça va permettre de voir s'il est capable d'amener cette équipe-là jusqu'au bout.
Ah oui, ça avait été un super capitaine à Moncton, là. Parce que j'avais entendu Jacob Pelletier, là. Donc c'est une très très belle acquisition, là. Les Foreurs de Val-d'Or, il y avait probablement plusieurs équipes dans la course pour aller les
C'est
chercher.
sympathique pour eux parce que c'est pas un gros marché, puis
Ouais, en plus.
on aime bien ça que ça sorte des bas-fonds un peu.
Absolument.
Pour moi, deuxième position, je vais avoir l'équipe championne du circuit l'année passée, le Félin de Sherbrooke. Une équipe, je pense, qui va être très très forte cette année. Une équipe qui va vouloir se venger de ne pas avoir été en série, de ne pas avoir gagné la Coupe du Président. Et que je vais avoir en deuxième position. J'aurais mis premier, mais avec l'acquisition des dernières heures des Sea Dogs, les Sherbrooke ont descendu d'un rang. Et à tous, j'espère que vous êtes prêts pour les premières positions. Étienne, ta première position?
Moi, je vais aller avec Sherbrooke. J'ai vu qu'on les avait beaucoup sous-estimés l'an passé aussi, là, parce qu'on disait que oh, la conférence de l'Ouest est faible comparée aux autres. C'est vrai, mais il était très très bon l'an passé. Cette année, il y a quand même des gros départs à voir, là, Félix Robert, là, qui avait été très bon, qui il y a 21 ans, j'étais allé chercher, là, puis il sera pas de retour. Est-ce que Jonka va revenir? Je sais pas si c'est un 20 ans, lui non plus, je sais pas. Il y a Voyer aussi qui devrait partir. Et Bolduc, est-ce qu'il va revenir, Bolduc? Je pense que c'est un joueur qui a un contrat pro lui aussi, comme
Ouais, qui a
Samuel
la même
Poulin.
bonne note.
C'est pour ça que ça va être, comme on dit depuis tantôt, là, ça va être intéressant de suivre. Est-ce qu'il va avoir une saison dans la Ligue américaine à suivre? Dans les buts aussi pour Sherbrooke, ils sont vraiment très bien placés avec Lavage, là, qui avait connu une super saison l'an passé, là. À l'attaque, Bailey Peach, Patrick Guay, Samuel Poulin, s'il revient, là, ça va être un gros, gros plus là, parce que c'est un excellent joueur là, qui devrait se batailler pour les premières positions au classement des points. C'est pour ça que je les vois encore en première position pour une deuxième année de suite.
Pour toi, Louis-Philippe, qui tu penses qui sera la meilleure équipe du circuit cette année?
Je crois que c'est surtout par rapport au fait qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de 20 ans de grande qualité avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Donc, ils ont perdu Jeffrey Durocher. Ils n'ont pas perdu des mauvais joueurs de hockey, mais je veux dire, le noyau est très jeune là-bas. Si Joshua Roy et Josh Lawrence peuvent vraiment lider cette équipe avec Jérémy Poirier, Brady Burns, ça va être incroyable cette équipe-là avec la profondeur défensive. Je ne vois pas qui peut sortir humblement les Sea Dogs de Saint-Jean dans la division maritime suffisamment pour pas qu'ils fassent ce premier.
Ah oui.
Et c'est
Bon.
ce qui va les élever au fond, aux têtes du classement général, tout simplement à cause du manque de profondeur de leur division.
J'avais oublié de mentionner aussi pour les Sea Dogs, là, dans les buts, il y a peut-être un peu plus un point d'interrogation. Il y a Patnaud qui a 17 ans. Il est peut-être pas prêt là, à prendre la première position. Mais du côté, le premier gardien, normalement, c'est le gardien de 20 ans, Carmine Anthony Pagliarulo. Je sais pas si vous l'avez vu un peu jouer là, à Rimouski, Louis-Philippe.
Non, pas tant, mais je pensais à ce que tu viens de dire, puis je me dis ça doit être en partie une bonne raison pourquoi ils ont été chercher Christopher Innes aussi, là, qui est un solide défenseur défensif, rodé au quart de tour par Serge Beausoleil à Rimouski avec l'identité hermétique que Serge a toujours aimé inculquer à ses joueurs. Je pense qu'il va apporter cette dimension-là, peut-être dans la seule faiblesse des Sea Dogs, c'était peut-être entre les poteaux. Je pense que le reste de l'équipe, si on part de l'âge qu'ils ont l'an dernier avec la production qu'ils ont eue, si la maturité rentre cette année, ouf, ça va être dur de
Ouais,
battre les loups de mer.
absolument. On a voulu acheter des vétérans là, pour solidifier l'équipe. Du côté de Pagliarulo, il avait connu une super saison avec les Remparts, là. Il avait été vraiment. Je l'avais vu souvent jouer. C'est un style de gardien un peu plus spectaculaire. Il peut voler des buts, là. Il est vraiment très bon. Par contre, quand il est arrivé à Chicoutimi, là, il a peut-être perdu de la valeur. Il avait connu une mauvaise deuxième moitié de saison, mais je doute pas qu'il peut rebondir à Saint-John, puis je lui souhaite la meilleure des chances, évidemment.
Pour moi, ma première position, c'est les Sea Dogs de Saint-John. Et je ne vais pas donner de pronostic, mais je crois que ça va être l'équipe championne de la Coupe Président cette année. Ça va être une très grosse équipe cette année, Saint-John. Une très grosse attaque, très grosse défense, un très bon gardien. Et que pour moi, je vois les Sea Dogs de Saint-John en première position.
Allez. J'ai hâte qu'on reprenne ces prédictions-là après les fêtes, là.
Ben oui,
Oui,
c'est
oh
ça,
mon
c'est
Dieu,
ça.
oui.
Actuellement, tu as tout à fait raison, Cédric. Je veux dire, si on regarde ça aujourd'hui, les Sea Dogs sont favoris selon moi, mais oui, c'est
Ouais.
sûr qu'on va voir quel mouvement va se faire dans le temps des fêtes.
Parce qu'il y a tellement beaucoup des mouvements dans le temps des fêtes, là, ça pourrait tout changer, là.
Effectivement.
C'est sûr, là, que ça va être
Juste pour
intéressant.
Rudy Ortiz et Légaré lorsqu'ils quitteront Bécomo, parce que je pense qu'ils vont quitter Bécomo, ou ce qui va
Ouais.
atterrir, c'est une équipe qui est déjà bien nantie, c'est sûr que ça n'ira pas.
Parce qu'il se trouve.
Ouais, vas-y,
Cette
Étienne.
année, comparativement à l'an passé, il y avait vraiment cinq gros, gros clubs l'an passé. Cette année, là, évidemment, on est dans la pré-saison, là, donc on n'a pas les alignements finales. Il va falloir attendre aux fêtes. Mais cette année, il n'y a pas d'énormes équipes, à part peut-être Saint-John, mais encore là, sont un peu jeunes, là. Donc, à voir.
Non, tout à fait.
C'était notre classement général pour la saison 2020-2021. Ça a été long, mais j'espère que vous avez apprécié ce classement. Vous, quel est votre classement général? Vous pouvez nous les écrire en commentaire et on va vous lire toute la semaine et on va vous répondre pour si vous avez des opinions à vous nous donner. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube qui est assez incroyable pour les fans de hockey junior. C'est la chaîne YouTube de la LHGMQ. Cette chaîne YouTube-là, c'est une des meilleures que j'ai vues pour du hockey junior. On peut voir des reportages, des faits saillants, des profils de joueurs, des grosses entrevues, des reprises, des matchs historiques, des matchs de finale de Coupe du Président. La chaîne YouTube de la LHMQ est remplie de contenu de qualité et assez intéressante à voir et à écouter. Et si vous voulez passer un bon moment avec l'Hockey Junior, si vous vous ennuyez d'entendre du bruit dans les estrades, vous pouvez aller consulter la chaîne YouTube de la WWE. Oh mon bon Dieu, de la LHMQ. Pour que j'avais la lutte dans la tête, c'est pour ça que j'utilise la WWE.
Deux ligues un peu
C'est
différentes.
ça, deux
Je dis
ligues
ça, j'ai rien.
un peu différentes. Et vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube de la LHMQ. Elle sera en description de vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube et en description de publication pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Et pour ceux qui nous regardent nous sur Spotify, il sera sur notre site, sur notre page Facebook. Maintenant, nous allons passer à nos surprises et à nos déceptions de la saison 2019-2020. Et que ça va se dérouler ainsi, nous allons parler de deux équipes surprises et de deux équipes différentes, deux équipes décevantes de la saison 2019-2020. Allez, Étienne, se laisse aller avec tes deux équipes surprises.
Mes deux équipes surprises l'an passé, là. J'étais quand même agréablement surpris des Eagles du Cap-Breton. Je ne les voyais pas nécessairement aussi haut, mais ils ont fini cinquième, là, si je ne me trompe pas. Il y avait vraiment une très bonne formation, là, puis même s'il y avait, il y avait quatre équipes devant eux, là, je les voyais aller loin dans les séries, puis je ne m'attendais pas à ce qu'ils finissent là.
Les Eagles et Cabreton ont fini quatrième.
Quatrième, ouais. En plus. Meilleur que je pensais. Ça m'a quand même surpris, oui.
Et ta deuxième équipe surprise?
Ma deuxième équipe surprise, je vais y aller avec l'Armada. Je pensais pas encore une fois que. Je me souviens plus exactement encore une fois ils ont fini où, là.
Ils ont
Mais
fini
dans les matchs.
huitième dans le classement et
Ouais,
premier et premier dans la division.
il y avait l'avantage de la glace. S'il y aurait.
Une des
S'il y
séries.
avait, désolé, wow, des séries, là. De ce que j'avais pu voir, là, les matchs contre les Renforts que j'avais regardés, ça avait fini avec un assez grand écart de but, là. Ils ont connu une bonne saison, puis je m'attendais pas à ce qu'ils soient. Est-ce que c'est à cause de la division, ou est-ce que c'est à cause de la conférence qui était un peu plus faible? Oui et non, mais je m'attendais pas à ce qu'ils finissent aussi haut.
Et tes équipes décevantes, ta première équipe décevante.
Je vais y aller avec les Cataractes de Shawinigan. Pas que c'est nécessairement le décevant, c'est pas énormément décevant, mais avec l'instabilité là, au niveau du coaching, est-ce que ça allait jouer un peu là-dedans? Je pense que oui, là. Mais la saison techniquement avant la grosse saison, normalement la grosse saison, je pense, les Cataractes, c'est supposé être cette année. Mais comme ils ont connu une saison un peu plus difficile l'an passé, ils ont fini quoi, 13e?
Ils ont
Une affaire
fini
de
12e.
12e, bon, c'est pas si mauvais, mais je pense que je les voyais un peu plus haut.
Et ta deuxième équipe décevante?
Je suis allé avec une équipe qui va connaître une grosse saison cette année aussi, les Foreurs de Val d'Or qui avaient fini eux 13e, hein, c'est ça?
C'est bien ça, ouais.
Ouais. Un an avant la supposée grosse année, c'était peut-être un peu trop bas, là. Je les voyais faire le top 10 l'an passé, là, mais ils ont peut-être manqué un peu de talent, peut-être.
Ouais, peut-être, mais ouais, peut-être. Mais là, cette année, comme tu dis, il va y avoir Jacob Pelletier qui va amener l'attaque des
Ouais,
Foreurs.
il manquait ce gros joueur-là au fort.
Pour toi, Louis-Philippe, tes deux équipes surprises?
Mes deux équipes surprises, ben c'est sûr que personne, je pense, même peut-être toi, Cédric, voyait l'Armada aussi haut l'an dernier.
Non.
Peut-être cette année, c'est un peu plus nuancé, mais incontestablement, c'était une belle surprise pour les gens de Blainville-Beaubriand. Et ainsi que, oui, bon, les Screaming Eagles du Cap-Breton, c'est toujours une énigme. Je pensais peut-être pas qu'elle allait finir aussi haut. Tant mieux pour eux. Il y a quand même eu le double de victoire que de défaite. Ce fut finalement, au final, une très belle surprise. Puis cette année, ben, c'est encore un point d'interrogation. On verra s'ils vont continuer sur cette année-là. Dans les déceptions, ben évidemment, il y a l'Océanique de Rimouski qui, malgré là, quand même pas de mauvaise saison. J'avais été capable d'avoir une équipe en forme toute l'année. Ça a fini par les faire baisser au classement. Il y a eu des performances là, coup-ci, coup-ça, à certains soirs là, en première moitié de saison. Je pense malheureusement que le passage d'Alexis là avec l'équipe Canada Junior avait ramener là ce qu'on attendait de l'Océanique, mais à la fin après de la saison, nous l'aurons jamais donné le dernier mot sur tout ça. Ainsi que pour ce qui est d'une autre déception, ben oui, moi aussi je vais y aller avec les Cataractes de Shawinigan, parce qu'une équipe qui compte 227 buts, c'est pas supposé de finir aussi bas dans le classement. C'est vraiment la défensive, comme disait Étienne tantôt, qui était négatif là-bas. Peut-être que le coaching n'y était pas non plus à suivre. On verra qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça cette année, mais pour l'an dernier, avoir compté autant de buts, puis peut-être en avoir juste un peu trop accordé, va être une déception pour eux.
Pour bon, vas-y, Étienne.
Ça m'a quand même surpris avec l'Océanique, là. C'est vrai que est-ce qu'on avait trop bâti autour de Alexis, vu que c'était le meilleur joueur de la ligue, là? Évidemment, là, je sais pas, mais.
Oui, c'est ça qu'ils ont fait. D'ailleurs, j'apporte la nuance cette année qu'on a perdu Alexis Lafrenière, mais je veux dire, Cédric Paris, si on regarde ses performances, Alexis Lafrenière n'était pas un joueur dominant. C'est ça qu'on s'est aperçu, c'est que l'équipe s'était greffée beaucoup autour de Lafrenière. Puis, dans le fond, les éléments que l'Océanique ont perdu, est-ce qu'on va vraiment les voir tant que ça? J'essaie de nuancer mes propos dans le sens que c'est pas des mauvais joueurs, mais c'est des joueurs qui performaient beaucoup avec Lafrenière. C'est comme si je parle de Pascal Dupuis. Pascal Dupuis est un super bon joueur de hockey, mais est-ce qu'il aurait performé autant sans Crosby? C'est ce genre de choses-là que j'en mettais en nuance. À suivre, mais oui, la première moitié de saison avait été un peu là, décevante du côté du Bas-Saint-Laurent.
Quand on dit que Lafrenière, c'est un joueur exceptionnel, là, il nous l'a montré l'an passé, là, il avait transformé ses coéquipiers, là, honnêtement, qui avait beaucoup performé avec lui, mais comme tu disais, quand il a quitté, ça a été un peu plus difficile, là, évidemment. Là.
Ben, il y a un hockey IQ équivalent dans des gars comme Nick Suzuki, comme Sidney Crosby. C'est un hockey IQ naturel. Tu peux pas acheter ça. C'est pas le meilleur coup de patin, mais c'est un gars qui est fluide dans tout ce qu'il fait. Puis j'espère que quelqu'un va avertir les Rangers de New York. Puis si jamais les Rangers décident de ne pas le repêcher, ben j'espère que Marc Bergevin a dans son ADN de donner tout ce qu'il peut faire pour sauver ce côté local, ce côté vente des gilets, ce côté impressionnant que le CH peut aller chercher. Je sais pas que les Rangers veulent l'échanger, mais ils sont quand même pas encore compromis sur le fait qu'ils voulaient le repêcher.
Ouais.
Pour moi, mon équipe surprise, c'est pas à cause que je suis fan que je veux le dire, mais moi aussi c'est l'Armada de Blévy-Beaubriand. Sincèrement, je croyais que cette équipe-là aurait été dans le top 10. Je veux dire, hors du top 10, je crois qu'il aurait été 12, 13, 14e. Une équipe surprenante avec un Luke Edmund impressionnant, avec un Emile Sanson impressionnant aussi à regarder. Cette année aussi, on a une grosse saison, mais on a dépassé un mois de novembre, décembre et janvier impressionnant. C'était mon équipe surprise. Pour mon équipe décevante, pour moi, je vais avec les Foreurs de Val d'Or. Une équipe que je voyais premier dans la division Ouest, une équipe très forte, mais il manquait, comme tu dis, Étienne, un très gros attaquant. Et je crois que cette année, les Foreurs de Val d'Or vont trimer dans les hauts du classement. Et que c'était nos équipes surprises décevantes. Tu vois, c'était moins long que les.
On a été.
Très vite.
On était assez d'accord sur ces points-là, en tout cas.
Ouais, on était.
Il fallait quand même dénoter aussi 18 équipes à 3, là, ce qui est quand même pas facile. C'est 54 équipes en tout à décortiquer. Fait que ça allait prendre un bout de temps, puis le pire, c'est que peut-être que dans un mois, on va tout changer.
Ouais, peut-être, on sait pas. Ça change vite.
Avec maintenant, j'aimerais vous parler de nouvelles qu'on vous a annoncées dans le premier épisode, mais qui n'est pas encore confirmée officiellement par la LHMQ. Et je m'en excuse vraiment. C'est Virgin n'est pas encore officiellement diffuseur officiel de la LHMQ. On a parlé à nos contacts dans le circuit et ils nous ont annoncé que officiellement ce n'est pas encore le diffuseur officiel. Je voulais juste préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, ça va être Virgin! » Mais on ne sait pas encore officiellement. Ça devrait l'être. Mais la nouvelle n'est pas officiellement annoncée.
On va suivre ça dans le prochain mois, en tout cas.
Ouais, prochain mois. Puis là, j'aimerais avoir votre opinion, les gars, sur C'est quoi vos attentes pour la diffusion? Est-ce que vous attendez à quelque chose de très très gros cette année parce que il y aura, les partisans ne pourront pas aller au match? Est-ce que vous attendez à quelque chose de gros ou vous attendez comme l'année passée que ça soit moins bon? Étienne, je te laisse aller.
Ben, je m'attends que ça soit mieux que les autres années, là, mais pas que ça soit incroyable, là. Évidemment, c'est quand même, c'est pas la LNH, c'est pas une ligue professionnelle, puis on vient juste d'apprendre en plus qu'il n'y aura pas de partisans dans les estrades. J'imagine qu'on pouvait s'en douter un peu, là, mais une été pourra pas changer ça au complet. Mais je m'attends à ce que ça soit une meilleure qualité, parce que c'est vrai qu'on avait probablement quelques problèmes avec la web diffusion dans les dernières années, quoique moi ça marchait quand même bien, mais du côté de certaines personnes, la qualité n'était pas fameuse. Donc je m'attends que que ça soit mieux que les autres années, mais pas que ça soit incroyable.
Pour toi, Louis-Philippe.
Ben écoute, les attentes vont être selon qui va produire, tout simplement. Je veux dire, on peut pas rien confirmer actuellement, c'est un peu flou, mais si oui, Verizon Communications prend le contrat, ben, je veux dire, eux, et la qualité de production sera impeccable d'un autre côté. Si on regarde avec ben, vous connaissez déjà la web diffusion actuelle qu'on a depuis quelques temps, je veux dire, il y aura aucun changement. Par contre, si on change de personnes qui diffusent, d'organisations qui diffusent, ben là, c'est sûr que il va y avoir une grosse amélioration à ce niveau-là. Aussi, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'avoir accès aux parties par Internet. Je veux dire, on y va avec la fluidité de la technologie. La Ligue junior majeure du Québec n'est pas la seule à vouloir aller de l'avant vers ça, surtout en temps là, incertain de COVID. À défaut d'avoir du monde dans les estrades, oui, on voudra avoir des gens qui regardent à travers nos différents canaux de diffusion, puis vous avez quand même une certaine pression là-dessus. À ce moment-là, je souhaite pour le mieux qu'on puisse avoir le meilleur produit possible.
Rapidement, donnez-moi un prix que vous croyez que ça va être annuellement. Étienne?
Moi, j'avais fait tu l'as sûrement vu passer, j'avais fait un sondage sur Facebook, là. Vous êtes prêt à payer quoi, là, mettons, pour la web diffusion? Il y a beaucoup de personnes qui avaient dit en bas de 100 $, là. Ça, c'est sûr que c'est impossible.
Non, c'est impossible.
Il faut ça prend beaucoup de matériel, hein, pour faire de la web diffusion, là. C'est pas simple, c'est assez compliqué, c'est assez dispendieux, là. Donc, si on le compare aussi à d'autres ligues, puis, dans les dernières années, là, j'imagine que ça va être entre 150 $ et 200 $, pour le forfait de toutes les matchs de toutes les équipes, là. Parce que j'imagine qu'il va aussi avoir un prix, là, si tu veux juste suivre ton équipe sur la route, si tu veux juste suivre certaines équipes, par exemple.
Ouais, Louis-Philippe, ton prix?
Dans le cas des prix, je vais encore avoir un peu le même discours. Ça va dépendre de qui sera derrière le projet, mais c'est évident qu'en manque peut-être de contenu pour l'automne, on parlera pour l'automne, là, pour l'instant, il n'y aura pas tant de sports professionnels. Il faudrait capitaliser idéalement là-dessus pour être capable de monter un peu notre notoriété, là. Vous savez, les diffusions des parties. Puis moi, le premier, je veux dire, si c'est un prix raisonnable autour de 150 $, là, pour au moins 60 parties de mon équipe, là, ça revient à quoi? 2,5 piastres de la partie, c'est pas tant. Puis si on décide de faire un survol de la ligue au complet, ben ça devient à ce moment-là un prix quand même assez dérisoire, là, à ce moment-là.
Moi, je crois que c'est...
Cependant, si on a les mêmes que les dernières années, ben on pourra pas demander non plus aux gens de débourser 300 à 350 $. Ça va être à
Ah,
eux à
non, c'est sûr.
s'ajuster.
Non, mais moi, je crois que ça va être 200 à 250 $ l'année. Parce que si c'est Verizon Communications, ça va être un très gros partenariat. Puis Virgin font de l'excellent travail. Est-ce que les partisans vont rester? Est-ce que les partisans vont vouloir débourser ça? Ça va être la question. Et ça, on va avoir la réponse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais moi, je crois que ça va être à peu près 250, 200 à 250 $ à peu près l'année.
Ah, mais dites-vous que Verizon en 2019 a fait 20 milliards de profits, fait qu'il faut bien qu'il y ait le chercheur quelque part, mais
Ben oui.
j'imagine que le produit sera en conséquence à ce moment-là.
Ouais, à 250 $, ça va être. Moi, je pense que ça va pas être raisonnable. Pour les gens qui sont pas prêts à payer, écoutez-le.
Il y a toujours la radio.
Écoutez à la radio.
Ceux qui n'ont pas les billets de saison, je veux dire, ceux qui ne pourront pas y aller, qui avaient déjà un billet pour les budgets pour les billets de saison, ça, je veux dire, 250 $, c'est pas grand-chose. C'est
Non. Ouais.
juste aller voir une partie, c'est 20 $. Faut être conséquent avec ça aussi.
Conséquent aussi. Mais, ben, les gars, c'est ce qui conclut notre deuxième épisode. de l'actualité à la JMK avec Ced. J'espère que vous avez apprécié les gens. J'espère que vous avez apprécié de nous écouter. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitch, Patreon, YouTube, Balado Québec, Spotify et Facebook. Tous les liens pour nous suivre seront en description de vidéo sur YouTube et en description d'application pour Facebook. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, on vous salue et on vous fait toujours nous voir sur Facebook, sur Twitch. Twitch, on va avoir des avant-premières aussi. Et on va pouvoir. Il va y avoir aussi des enregistrements en direct aussi sur Twitch. Et qu'à tous, j'aimerais vous souhaiter de passer une excellente semaine. J'espère que vous allez commencer à regarder les matchs des camps d'entraînement qui vont commencer bientôt.
On l'a même pas mentionné, là, mais les camps d'entraînement, là, ça commence ce dimanche 30 août, si je me trompe pas. Oui, ce dimanche 30 août, et les premiers matchs du pré-saison commencent mardi le 1er septembre. D'ailleurs, Louis-Philippe, il y a un match remport océanique à 15h.
Absolument. Ah oui, c'est au rendez-vous.
C'est sûr que je vais être arrivé. Vous pouvez aller voir les réseaux sociaux de votre équipe aussi, parce que je sais que plusieurs équipes ont annoncé que leurs matchs pré-saison seront en web diffusion, soit sur leur Facebook ou soit sur leur YouTube. Mais je sais que c'est pas pour toutes les équipes. Donc, à suivre.
J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va aborder tous ensemble le top 10 des meilleurs arénas dans le circuit courtois. Et préparez vos classements. Les gens à la maison, préparez votre classement. Le top 10 des meilleurs arénas dans le circuit courtois. Que à tous!
Hashtag Maribo.
Oui, en première position, c'est sûr.
Que à tous, je vous souhaite de passer une excellente semaine et que j'espère que vous avez apprécié de nous écouter. Et que à tous, bonne semaine. Merci Étienne.
Merci Seb.
Merci Louis-Philippe.
Cédric, Étienne, mesdames, messieurs, bonne semaine.
Bonne semaine.
Et qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'actualité. LHMQ avec Seb. Bonne semaine tout le monde.
Oh, t'as mal dit le dernier mot là, faudrait peut-être recommencer au complet. Dis-moi que c'est enregistré.
Ouais, dis-moi que c'est enregistré. Bon point.
Ah, ben en tout cas, je peux dire, là, c'était beaucoup mieux que le premier épisode. Là.
Ben oui, ça va toujours être mieux, là.
Qu'est-ce que ça a pas enregistré?